La super idée. Éducation populaire, accompagnement de porteurs de projets, formation, émancipation sociale.
La super idée, l'émission d'éducation populaire de l'association Idée. Première diffusion, chaque troisième mardi du mois à 18h10, le mercredi suivant à 14h10 et le samedi suivant à 16h10.
Ah non, on n'est pas là pour partager les savoirs.
Ah oui, pardon. C'est pas comme si on parlait d'éducation populaire.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans la deuxième édition de la Super Idée, avec à l'animation, rédaction, choix musical, Soukaina et moi-même. Salut Soukaina, ça va bien ?
Salut, oui ça va, une crève qui s'en va tranquillement.
Ouais, moi je suis navrée pour ma voix aujourd'hui, c'est un peu cassé la voix, pardon, désolée encore pour cette référence. Donc ce mois-ci sera consacré à un thème d'actualité, les...
Gilets jaunes.
Et donc je laisse la parole à Soukaina qui va nous expliquer pourquoi nous avons choisi de traiter ce sujet dans une émission de Idée.
Alors, on a décidé de parler du mouvement des Gilets jaunes parce que quand même, ça occupe pas mal d'espace médiatique, mental, dans les discussions, etc. Et que du coup, en tant qu'association d'éducation populaire, IDÉE donc, vous l'aurez compris, on trouve que c'est intéressant aussi pour nous d'aborder cette question et de la mettre sur la table à travers notre émission. Pour rappel, l'émission, on la veut émission d'éducation populaire, donc l'idée c'est de partager et de se questionner et d'échanger sur plein de thématiques différentes. Et là, en l'occurrence, donc, cette mobilisation citoyenne qui a une allure quand même assez originale et qu'on n'avait pas forcément vu ces derniers temps en termes de mobilisation, on trouvait que c'était une bonne illustration de l'éducation populaire comme on la défend et de laquelle on se revendique. Donc c'est pour ça qu'on en parle. On est une association qui œuvre pour le développement local, donc tout ce qui est traité à travers les revendications des Gilets jaunes, ça aussi en lien avec le développement local, donc c'est aussi pour ça qu'on veut en parler. Et aussi, pour terminer, du coup, la réaction du gouvernement par rapport à cette mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, ils sont inclassables, ils n'ont pas spécialement de représentants, ils se revendiquent pas forcément de partis politiques, plutôt pas d'ailleurs. Et on voit bien la réaction du gouvernement qui est quand même plutôt de dénigrer ce mouvement, de pas le prendre au sérieux, d'avoir des revendications plutôt triviales et pathétiques selon lui. Voilà, donc on trouve ça intéressant d'aborder la question ensemble aujourd'hui au travers de la super idée.
Du coup, le gouvernement a utilisé réellement les mots « trivial » et « pathétique » ?
Non, mais c'est vrai que c'est de l'interprétation personnelle, mais c'est vrai que... Je trouve vraiment que la réaction fait penser à ça, quoi. C'est-à-dire que tu vois ce mépris de classe, en fait.
Mmh. Non, mais c'est rigolo, parce que, justement, il n'y a pas que le gouvernement, au début, qui a eu ces qualificatifs,
c'est vrai.
On va dire. Quoi.
C'est vrai que si on veut être complètement honnête, moi, personnellement,
voilà.
Par exemple... On a un peu aussi usé de ce genre de qualificatifs, notamment sur le premier week-end de mobilisation, où... pour moi, personnellement, je vais parler pour moi parce que ça n'engage que moi. J'avais vraiment ce regard de dire non, mais ça sert à quoi de bloquer des ronds-points un samedi à part faire chier ses semblables, quoi. Moi, dans ma tête, je me disais bon, si on veut faire chier le gouvernement, on bloque des raffineries, on bloque des pompes à essence, on ouvre des pompes à essence même, on ouvre des péages, enfin, on fait quelque chose qui met tout le monde d'accord, quoi. Alors que là, ça avait plus une allure de. On va faire chier les gens, on va se mettre sur des ronds-points, et puis voilà, quoi.
Oui, puis il y a eu un côté hyper particulier aussi, je trouve, au tout début du mouvement, je crois que c'était le 17, sur les manifestations qu'il y a eu ici, dans le coin, le côté un petit peu milice, quoi, que ça revêtait, notamment d'une copine qui avait manqué de se prendre un parpaing dans son pare-brise. En fait, à partir de quand est-ce que les citoyens, entre guillemets, ou sans guillemets, deviennent une milice et imposent des trucs aux autres personnes?
Oui, le côté si tu mets un gilet jaune, on te laisse passer.
Ouais, je trouvais ça... Au tout début, moi, ça me posait vraiment question, surtout pour ce type de revendication. Mais j'ai justement un texte qui parle de ça, donc je pense on peut mettre une petite musique et enchaîner sur le texte.
Thank you.
Du coup, je disais, j'ai justement un texte qui fait bien le lien avec ce que tu racontes, donc il vient du site internet Lundi Matin, qui est un site d'information indépendant. Et donc le texte s'intitule « Les gilets jaunes du point de vue révolutionnaire ». Donc ça parle notamment du mépris de classe qui s'est opéré dans les premières phases du mouvement. Et donc mouvement qui est en train d'évoluer vers quelque chose d'encore plus hétéroclite aujourd'hui. Donc, rien ne sert de le cacher. On n'a pas une inclination naturelle à rejoindre le mouvement des gilets jaunes. Sans même parler des propos et des gens intolérables, sans mentionner l'emblème norme-corps officiel, il y a quelque chose qui coince. C'est que dans ce mouvement, on a affaire à la classe moyenne en tant que telle. Non pas les gens normaux qui ont une conscience politique, mais les gens normaux, point. Or, quel est le problème de la classe moyenne du point de vue révolutionnaire ? Elle a le désavantage de ne pas incarner une oppression particulière, très légitime, à qui il ne manquerait que la radicalité. Alors que le prolétariat, le paria, dans les sentiments des révolutionnaires, s'il n'est pas nécessairement du bon côté, est quand même plutôt du bon côté. Le révolutionnaire a immédiatement envie d'être solidaire du prolétaire, du pauvre, de l'exclu, du stigmatisé. Si son discours n'est pas très clair, au moins sa condition l'est. La classe moyenne, c'est la non-classe par excellence, la classe à qui elle seule suffit à démentir tout discours sur les classes. Elle joint à la confusion du discours une condition purement confuse. Or, il se trouve qu'avec les gilets jaunes, la classe moyenne fait une entrée fulgurante sur la scène politique. Le mouvement semble tenir compte de l'acquis de toutes les luttes pressantes. Stratégiquement, il se veut autonome, sans assignation, à des partis ou des syndicats. Tactiquement, il opte pour l'irruption. Il refuse les lieux qu'on lui impose et adopte des gestes émeutiers. Politiquement, il n'est rien, rien que refus. Il n'a pas encore de discours, il n'a pas le moindre lieu d'organisation, à part les réseaux sociaux. Pour l'instant, cette grande masse de gens qui agit n'a discuté politique que de manière informelle, dans l'action, pendant les blocages, autour d'un feu. Cependant, le mouvement affirme réellement une chose, sa détermination, son caractère irrécupérable, voire totalement incontrôlable. Et dans l'échauffement de la journée du 24 novembre à Paris, Le mouvement parle de révolution. Les gilets jaunes, c'est cette chose presque incompréhensible du point de vue révolutionnaire. C'est la classe moyenne, l'éternel ventre mou, qui s'énerve. Bien sûr, certains parleront de prolétarisation, diront qu'il s'agit de la classe moyenne inférieure, mais l'important n'est pas là. L'important est d'arriver à admettre que la révolte ne vient jamais pour flatter personne, ne vient jamais pour correspondre au schéma attendu. La révolte, ça fout la merde, tout le temps. Ou alors c'est pas la révolte. Eh bien voilà, les gilets jaunes foutent la merde dans les attendus, dans les projections des gens avancés, politiquement conscients. Ce n'est même pas d'abord une question de préjugés, c'est carrément une question de distance éthique, épidermique. Difficile de le dire autrement, on a envie de la révolte, mais on n'a pas envie que ça parte de là. Depuis toujours, pour ainsi dire, on attend que les quartiers populaires se rebellent, ne serait-ce que de manière minimale. On a cru à la révolte contre la loi travail, on a cru aux cheminots, mais là, on ne peut pas y croire. En réalité, la situation est beaucoup plus ouverte qu'elle n'y paraît. Et elle justifie qu'on y croit, même si naturellement, rien n'assure que l'embryon révolutionnaire qu'elle contient éclose, se déploie et gagne. D'abord, on doit se rappeler qu'un mouvement dépend toujours des forces qui s'engagent ou ne s'engagent pas dans la bataille. Si les révolutionnaires s'abstiennent, exercent leur droit de réserve, l'affaire est pliée. À supposer que ce mouvement gagne encore en puissance, il demeurera confus, donc plus ou moins réactionnaire. Ensuite, il faut prendre au sérieux ce qui se passe. Comment en arrive-t-on à une situation dans laquelle les gens programmés pour ne pas se révolter, programmés au mieux pour parodier la subversion, se révoltent pour de vrai ? Même s'il ne faut surtout pas écarter l'éventualité du pire, on doit suspendre la division droite-gauche qui ici nous empêche de comprendre quoi que ce soit. Qu'est-ce que les gilets jaunes expriment ? Un sentiment d'étranglement économique ? Immédiatement, on a le réflexe de se dire « Quoi, ces gens ne pensent vraiment qu'à leur porte-monnaie ?» On est déçu. Quoique le produit du mode de vie dominant est sous nos yeux, à savoir la fin du monde, et ces gens se soulèvent pour une histoire de taxes. Les conditions sociales sont des conditions politiques. La sociologie, c'est de la politique stratifiée. Chaque condition correspond à un rapport à l'argent, qu'il faut connaître. Le riche se moque de l'argent, ce n'est jamais un problème pour lui. Le riche, c'est celui qui est trop riche pour y penser. On pourrait dire « il est argent ». Le révolutionnaire, lui aussi, se moque de l'argent, mais parce qu'il n'oublie pas que c'est une pure convention. Il sait que tout ce qui a trait à l'argent tient de l'envoûtement intégral. Pour lui, l'argent relève d'une certaine pratique religieuse qui a pour absolu le nivellement de toute chose. Ainsi, pour des raisons complètement opposées, le trop riche et le révolutionnaire ont le même non-souci de l'argent. À l'inverse, être pauvre, c'est quand le souci de l'argent est extrême, maximal, au point que seule une résignation immense semble pouvoir le compenser et presque le faire oublier, en faisant de la privation quelque chose de naturel. La condition de pauvreté s'impose comme une quasi-fatalité. Pour toute une série de raisons, ou plutôt de hasards absurdes, être pauvre, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, être dans l'acceptation. Car dès qu'on fait autrement, on cesse d'être pauvre. Dès qu'on bricole, qu'on trafique, qu'on fait tout ce qu'on peut pour cesser de s'identifier à cette condition, on y parvient par des voies légales ou non. Le pauvre, c'est celui qui ne devient pas un bandit, entre autres.
En el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, esto da una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho. Bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan jergueado. Te preguntas si no has jangueado, si estás quedado. Si lo has copiado, lo has vacilado. Si dejaste el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en Buenaventura. Y si sos chocuano, sos arrecho por cultura. ¡Ey!
Somos Pacífico, estamos unidos. Nos une la región, la la tierra. No hay quien se me pierda con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan por la mamá y hasta por los rostros. Étnicos, estilos que entre todos se ven. La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime quién me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea. Donde se ven un pico y juran que fue un beso. Donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado
de Buenaventura.
Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado. Puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumbao. Donde se baila guabajo y pasillo. Al lado del río con mis prietillos. Tumaco, el puerto Cauca, seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes. Llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural. Música, arte plástica, danza en general. Acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar. Después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano. Una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos. Con nuestra bambara y con el caché. Venga y lo busque mismo, pa' ver cómo es. Y yeah, piensa lo que se puede perder. Y yeah, pura calentura y danger. Y yeah, ahora dígame qué cree usted. Porque Colombia es más que coca, marihuana y café.
Du coup, ouais, on revient un peu sur le texte, l'article de lundi matin. C'est vrai que moi je l'ai trouvé hyper bien, je l'ai lu en entier, ça vaut le coup si vous avez l'occasion d'aller sur le site lundi matin.
C'est lundi AM.
Lundi, ouais, lundi AM, c'est ça. Parce que je trouve qu'il a le mérite d'être honnête par rapport à la réaction de nombreux et nombreuses d'entre nous, de prime abord par rapport à ce mouvement.
Carrément, ouais. Enfin, moi, je l'ai trouvé assez synthétique, en fait, sur toutes les idées qui me traversaient. Donc, j'ai un peu l'impression que ce texte a fait le travail de synthèse de tous les trucs où j'étais là. J'arrive pas à identifier. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que je pense de ce truc, hein, c'est trop bizarre. Et du coup, j'étais assez contente de lire. Et c'est vrai qu'on a envie de tout lire, même là, à la radio, parce que je trouve que c'est assez juste. Et bref, ce texte est chouette. Allez le lire si la question vous intéresse ou vous interroge. Et donc, on va continuer, justement. Nous, on s'est posé un peu la question de quelles étaient les opinions des gens à Centrafrique. Du coup, on a choisi de faire un micro-trottoir. C'était mardi dernier, je crois.
C'est ça, ouais, c'était mardi. Après, bon, micro-trottoir, c'est vraiment dans le sens où on est allé rencontrer les gens. C'est vrai que c'est plutôt des gens qui gravitent plus ou moins autour d'idées, du lieu-dit, tout ça. Donc on peut questionner sur l'objectivité des personnes.
Il n'est pas du tout objectif.
Voilà.
Mais en même temps, c'était difficile pour nous d'aller rencontrer d'autres personnes. Les rues de Saint-Aff n'étant pas forcément bondées et les personnes n'étant pas forcément hyper disponibles dans les commerces, c'était un peu compliqué de faire autrement. Mais bon, bref.
Bon, ça donne une idée, quoi.
Ça donne une petite idée, quand même.
Il y a quand même différentes personnes de différents âges, hommes comme femmes. Et voilà, on a un petit extrait de qu'est-ce que pensent certains habitants et certaines habitantes de Saint-Afrique de ce mouvement.
Mmh. Avez-vous pris part au mouvement des Gilets jaunes ?
Non, pour le moment, je n'ai pas pris part à ce mouvement.
Non, pas vraiment. Je me suis renseignée, j'ai regardé de loin, mais j'ai pas pris part. N'étant pas ni conductrice ni détentrice de permis, je suis pas vraiment tout de suite identifiée au mouvement. Mais après, c'est vrai que vu l'amplitude que ça prend, on est obligé un peu de se renseigner quand même et de voir qu'il se passe quelque chose, quoi.
J'y ai pas participé. Par contre, j'ai suivi de loin sur Facebook.
Je me suis rendue sur aucun rond-point, aucun. Non, voilà. Je n'ai pas fait partie physiquement du mouvement, mais je suis pour.
On va essayer de soutenir, enfin clairement, mais je n'ai pas participé aux manifs jusqu'à présent, non.
Pourquoi ?
Parce qu'au départ, c'était quand même pas mal étiqueté, on va dire, de droite. Et ce qui me déplaisait là-dedans, c'est qu'en fait, ce qui a rallié les foules à la base, c'est quand même l'augmentation du carburant. Bon, on est d'accord que maintenant, ça a pas mal dérivé. mais ce fait-là en fait ne me va pas en fait. Enfin, le fait que les gens se retrouvent autour de l'augmentation du pétrole alors que il y a plein d'autres trucs qui vont super mal et qui sont beaucoup plus graves. Voilà, ça m'a.
Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Un peu refroidi.
Qu'il y a 80% des Français qui sont en faveur du mouvement. Et je me dis que sur les ronds-points, il se retrouve des gens totalement hétéroclites. Ça peut aller de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et je me dis que tout ce temps passé à se chauffer, à barrer le viaduc, le rond-point, le machin, les gens discutent. Et peut-être que de là sortiront des idées géniales, tu vois.
Il faut pas les. Enfin, ils sont déjà nombreux, mais faut qu'on s'y grève tous. Ce qui m'embête un peu jusqu'à présent, c'est qu'il y a pas trop de préoccupations écolo dans le mouvement. Et je pense que plutôt que de critiquer les gilets jaunes en disant qu'ils sont pas écolos, bah le mieux c'est que tous les écolos convergent avec eux pour pouvoir rajouter du vert dans le mouvement.
Ça se passe plutôt pas mal. Les casseurs, bah, c'est pas génial, mais ça fait parler quoi. Du coup, ça fait bouger. Voilà.
Je pense que ce qui serait intéressant, c'est vraiment de mettre en place des nouvelles formes démocratiques. Et ce qui m'intéresse dedans, c'est le fait que le peuple se réapproprie des choix, une action, enfin demande plus d'égalité et demande aussi à participer concrètement à l'organisation du bordel, quoi.
Qu'ils n'arrêtent pas.
Je le trouve assez intéressant parce que pour une fois en fait c'est pas les mêmes personnes que d'habitude qui sont en première ligne face aux forces de l'ordre comme on les appelle et du coup ça fait un peu tout drôle un peu à tout le monde de se dire ah mais en fait quand on n'est pas d'accord on se fait taper dessus et l'État en fait n'est pas une démocratie.
C'est du caractère hétéroclite du mouvement des Gilets jaunes.
Bien et dangereux à la fois parce qu'il y a trop de récupération politique surtout du côté du Front National.
Je pense que c'est beaucoup de franges, de tranches de la population qui se sentent concernées, quoi. Enfin, il y a un gros sentiment d'injustice, quoi. C'est le gouvernement, on a l'impression que ça redevient un peu royaliste, là, et que du coup, il y a le roi, la cour du roi, et le peuple est. Et c'est juste pas possible, quoi. C'est que le peuple est plus entendu.
Elle rallie et cristallise les revendications liées au climat, l'environnement ou les grands projets inutiles, notamment dans le secteur énergétique, et qu'elle intègre la question des migrants. Nos borders, morts aux frontières, jamais travail, ni Dieu ni maître.
Partie du mouvement qui se revendique apolitique, qu'est-ce que tu penses de ça ?
Foutaise.
Oui, voilà, à partisan, mais chacun a ses idées. Modelons quelque chose avec la politique, quoi. Parce que, franchement, c'est galvaudé, ce truc. C'est galvaudé. Mais ça veut rien dire, quoi.
Je pense que c'est louable, mais que, de toute façon, il y a un moment donné où je pense qu'ils vont devoir choisir des représentants. Et je pense que c'est là qu'il y a un danger, en fait, que ces représentants soient se révèlent être se révèle être politisé, soit se politise et que des personnes essayent de rentrer en politique grâce au mouvement des Gilets jaunes. Je pense que c'est à ça qu'il faut faire attention, en fait.
Tous les mouvements de masse sont politiques aujourd'hui.
C'est apolitique. Enfin, c'est apolitique, c'est politique dans le sens de plus que de prendre soin de la cité, là, on prend soin de la nation et la nation, enfin le peuple de la nation a besoin d'être entendu. Dans ce sens-là, c'est complètement politique. Après, c'est pas un mouvement. C'est pas de gauche, de droite, mais c'est complètement politique. Ouais.
Enfin, c'est une histoire de justice sociale et d'écologie. Enfin, les deux sont hyper urgents et importants.
Les casseurs, c'est pas génial, mais ça fait parler, quoi. Du coup, ça fait bouger.
Moi, je trouve ça bien. La politique, quand on voit ce que ça donne depuis après-guerre, ça sert à rien. Ils nous ont mis dans le mur.
Que ça déborde pas, qu'il y ait une espèce d'autorégulation qui se fasse et que les casseurs ne prennent pas le dessus et que du coup ça devienne un mouvement de casseurs et que ça passe à l'as le vrai message, quoi. Voilà. ce qui se passe un peu dans, enfin, je trouve partout dans les causes militantes. C'est que ben, la question, elle est légitime, elle est juste, et de se mobiliser, c'est juste, et il y en a qui se servent de ça ben, pour exprimer des colères personnelles.
Quelque chose sur le montage?
Oui, alors je plaide coupable, le montage c'est moi et c'était mon premier montage, donc c'est ce qui explique que bon, c'est un petit peu aléatoire. Voilà.
Après, pour plaider ta défense, t'as téléchargé une version diabolique de Audacity qui était vraiment très bizarre.
Ah, je savais qu'il n'y avait pas que moi.
Ouais, je trouve que ce micro-trottoir il est assez intéressant. Enfin, je sais pas, je trouve ça toujours un peu particulier ce truc de... Ce mot « casseur » qui revient souvent, je trouve que déjà le mot en lui-même, il est assez ridicule. Mmh. Et qui sont toujours ultra médiatisés, pointés du doigt, etc. Alors que dans ce micro-trottoir, y a les dérives du mouvement, elles ne ressortent pas du tout. Comme les violences racistes qu'il y a eu à Cognac, ou homophobes à Bourg-en-Bresse, ou encore la dénonciation de migrants qu'il y a eu dans la Somme le 21 novembre. Et puis la prise de position de l'ultra-droite aux manifestations de Paris et tout ça. Je trouve ça curieux en fait que les personnes fassent tout le temps ressortir ce truc de casseur et ne parlent pas de ces événements-là. Et d'ailleurs, on avait discuté avec une des personnes interrogées au micro-trottoir qui n'était même pas au courant de cette dénonciation de migrants. Du coup, je trouve ça pose un petit peu question, quoi.
Ouais, c'est sûr qu'après, ça fait toujours réfléchir sur... l'histoire des casseurs, c'est que ça se voit. Enfin, ça se...
C'est palpable, quoi. Ça...
Oui, c'est sûr.
Surtout quand tu te filmes et que tu le postes.
Oui, oui, non, bien sûr. Bah, après, c'est juste quel axe les médias décident de donner à leur information. C'est toujours ça le fond du problème, au final.
Oui, oui. Bah, moi, ça me fait toujours très bizarre que les gens se scandalisent pour du mobilier urbain, comme si c'était leur propriété, enfin, et qu'ils se sentaient atteints eux-mêmes. Ouais. Mais bref. Après, voilà, je trouve qu'il y a tout un tas de confusion. Dans les termes, enfin.
Bah, c'est pour ça que ce qu'on peut proposer là tout de suite, en lien toujours avec ce qui s'est dit pendant le micro-trottoir, c'est de revenir sur quelques définitions qui ont le mérite de poser le débat de façon assez clair. Pragmatique. Mmh. Et par exemple, pêle-mêle, on va vous donner la définition de apolitique.
Donc, qui est revendiquée du coup par le. Qui est même dans les tracts en fait.
Qui est dans les tracts, qui est revendiquée et qui est. Usé et abusé pas mal. Apolitique, c'est qui se tient en dehors de la lutte politique. La définition de partisan aussi. Donc, à l'origine, le mot partisan désigne une personne qui se déclare ou qui est en faveur de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, dans le langage commun, c'est plutôt en faveur d'un parti ou d'une personne représentant un parti politique. Voilà, on va pas forcément commenter ces définitions, on va juste, c'est juste histoire de donner des billes pour débattre de façon plus claire aussi. Il y a le terme nation qui est venu aussi parmi les témoignages des personnes que nous avons interrogées. Alors une nation, c'est une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifiée par une autorité souveraine. Un pays, c'est un territoire habité constituant une entité géographique et humaine. Et État-nation, du coup, un État-nation est un concept théorique, politique et historique désignant la juxtaposition d'un État, en tant qu'organisation politique, à une nation, c'est-à-dire des individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. Voilà, histoire de juste donner quelques clés de débat. Je te laisse poursuivre peut-être, ouais. Adeline.
Après dans les revendications, je trouve qu'il y a vachement le terme de pouvoir d'achat qui revient et qui est brandi. Et moi, j'ai l'impression, pareil, qu'il y a une confusion un peu entre pouvoir d'achat et puis qualité de vie. Du coup, le pouvoir d'achat, c'est la capacité d'achat en termes de biens et services marchands d'une quantité donnée de monnaie. Tandis que qualité de vie, selon l'OMS, la qualité de vie est une combinaison de facteurs psychologiques, physiques et sociaux et matériels pour évaluer le bien-être de l'individu. Donc j'ai vraiment l'impression que dans les revendications, les deux s'entremêlent de manière vraiment floue et... C'est très curieux. Après, moi, je veux bien revenir sur apolitique et on a donné la définition de partisan, mais en l'occurrence, ce serait plutôt apartisan qu'on aurait dû utiliser.
Bah, c'est ce qu'on a spécifié aux personnes, d'ailleurs, quand on leur posait la question le mouvement se revendique apolitique, qu'est-ce que t'en penses ? En fait, souvent, ce qu'on sous-entend par apolitique, c'est apartisan.
Et
c'est ça qu'on a voulu clarifier aussi.
Après, sans transition aucune, j'aimerais bien parler un peu de répression, de violence policière, etc. Donc là, on l'entendait un peu dans le micro-trottoir d'une personne qui disait « Tiens, c'est intéressant parce que pour une fois, c'est des personnes qu'on n'aurait pas vues forcément en manifestation, qui comprennent que effectivement c'est violent, effectivement, dès lors que tu veux un peu te faire entendre ou même de manière non-violente, t'as quand même des risques de t'en prendre plein la poire. » Et du coup, c'est un extrait sonore tiré de l'Obs qui s'intitule « Après avoir été canardé par les CRS, on est forcément moins pacifiste ». Donc les extraits ont été pris à Paris le 1er décembre aux Champs-Élysées.
J'ai un ami qui s'est pris un coup de flashball il y a 5 minutes alors qu'on était en train de marcher tout doucement. S'il l'avait pris dans la tête ou autre part, je pense que ça n'aurait pas eu le même impact. Mais c'est une catastrophe, faut que l'État fasse, faut faire quelque chose.
Honnêtement, je vais vous dire, c'est la première fois que je vais manifester. Je suis venu pour me rendre compte des choses, pour voir ce qui se passe réellement. Et en fait, on ne peut même pas discuter, on ne peut même pas se mobiliser, rester en place comme ça et dire on n'est pas content sans se faire attaquer par les CRS. Et ça, je trouve ça anormal. On est dans un pays démocratique et on est censé avoir le droit de parole et c'est pas normal que ça se finisse comme ça.
Après, c'est vrai que moi-même étant pacifique, quand on se fait canarder par des CRS, on l'est un peu moins.
C'est énervant, c'est frustrant parce qu'on peut pas s'exprimer, mais...
Et
on se fait gazer pour rien. Mais c'est beau, quand on voit ça, c'est beau.
On voulait aller sur les Champs-Elysées, on nous a dit, présenter une carte d'identité, on va passer. Ma carte, elle est là, moi, je passe pas. Voilà, donc, ce qu'ils racontent à la télé, c'est des conneries.
Et donc, du coup, c'est quoi? C'est un sentiment d'injustice?
Tout à fait. Ouais. Et on nous prend pour des chiens, voilà. C'est tout, on paye, et puis voilà, quand on veut manifester, on n'a même pas le droit de manifester. Voilà.
Bah ouais, moi je trouve ça vraiment intéressant du coup ce truc là que les personnes se rendent compte que oui voilà en fait quand tu vas dans la rue et ben bim ça peut tout à fait tomber sur le coin de la tronche. Donc je rappelle qu'il y a déjà eu des violences notables, notamment une personne qui a été tuée à Marseille, une personne de 80 ans qui n'était pas dans la manifestation.
Dommage collatéral quoi.
Dommage collatéral, mince. Il y a eu aussi des mains arrachées, etc. Il y a eu une personne aussi au pronostic vital engagé pendant plusieurs jours. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est intéressant parce que dans cet extrait-là, il y a une personne qui utilise l'expression « on n'est pas en démocratie » ou je sais pas quoi. Et du coup, nous, on a choisi le thème de la démocratie bientôt pour idée parce qu'en fait, là, on parle pas du tout d'idée, hein, mais on va quand même y revenir.
Un peu quand même.
Et donc, peut-être tu veux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème-là pour notre prochain cycle d'éducation populaire ?
Ouais, alors juste pour rappel, du coup, nous, on fonctionne en cycle sur des thématiques diverses et variées. Donc là, le dernier, c'était sur la lutte contre les discriminations, avec plusieurs formes d'événements qui ont eu lieu depuis septembre jusqu'à janvier prochain. Et pour début 2019, donc le premier semestre 2019, on a décidé d'aborder la question de la démocratie, alors au sens très très large, et plutôt avec un regard critique. C'est-à-dire que, étant donné que les municipales sont en 2020, on trouvait ça intéressant, déjà Adeline et moi, dans un premier temps, d'aborder un peu toutes les questions qui sont en lien avec la démocratie, la représentativité, la citoyenneté, etc. Et donc on va construire au fur et à mesure du temps ce cycle-là et on va donner l'occasion à toutes celles et ceux qui veulent participer à nos différents événements qui prendront des formes très variées pour échanger sur ces questions-là. En fait, on part pas mal, souvent la façon dont on fonctionne, c'est qu'on part de questionnements qu'on a nous, en tant qu'habitantes de Sainte-Afrique et habitantes... d'une manière générale, en tant que citoyenne, en tant que, comme vous voulez vous appeler. Et du coup, on essaye de développer des questions et de se dire qu'il n'y a pas de raison qu'on se les pose qu'entre nous et que ça peut être intéressant et que ça peut être des questions aussi que d'autres se posent. Et donc, la fonction d'idée, c'est de mettre en place des temps d'échange sur les questions qu'on se pose d'une manière très, très large. Voilà. Donc on a pensé aborder la question du fonctionnement de la République, déjà de base, histoire de se remémorer un peu les cours d'éducation civique qu'on a eu la chance de suivre au lycée.
J'ai oublié très vite.
Mais en mode, pas en mode cours, hein, évidemment, c'est pas du tout le but. Et par exemple, déjà de partir de là, d'aborder aussi la question des impôts. À quoi servent nos impôts? Qu'est-ce qu'ils financent? Et en fait, pourquoi au final, des fois c'est peut-être pas mal d'en payer. Plein de questions comme ça, très diverses, sur la démocratie au sens très large du terme. Hein. On est d'accord que ça va ratisser très large.
Ouais, il y avait aussi d'autres choses dont on voulait parler, donc notamment de répression aussi. On avait aussi l'envie de parler peut-être de milieu carcéral. Et j'avais bien une envie de faire un petit atelier d'autodéfense administrative.
Oui.
Parce que c'est vrai que nous, on passe un peu notre temps à faire des papiers, si ça peut servir à d'autres... Ça peut être assez chouette.
Non seulement on passe notre temps à faire des papiers, mais en plus on reçoit pas mal de personnes qui sont un peu paumées dans les dédales administratifs, que ce soit perso ou professionnel.
Et du coup, c'est vrai que des ateliers d'autodéfense administrative,
ça peut être cool.
On sent que ça peut parler, quoi.
Ouais, ouais, carrément. Après, c'est pas non plus un travail d'assistante sociale, on n'est pas du tout professionnel dans ce truc-là, mais c'est juste que si nous, les galères qu'on a eues en faisant nos démarches peuvent servir à d'autres, ça peut toujours être chouette. Et j'ai l'impression qu'il y avait tout un tas d'autres trucs dont on voulait parler dans ce cycle. Pourquoi est-ce que là...
Ouais, va... après, on va peut-être garder un peu de suspense.
Ah, ok. On fait le suspense. D'accord.
Bah, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire, par contre, c'est revenir fin janvier avec le programme plus détaillé.
Oui, tout à fait. Oui.
Et une grosse envie de d'attiser les foules comme ça, quoi. Envie.
D'accord. Cool. Bon, ben, on va se quitter. Sur ce.
La super idée.
La super,
La super idée. Éducation populaire, accompagnement de porteurs de projets, formation,
émancipation sociale. La super idée, l'émission d'éducation populaire de l'association ID. Première diffusion, chaque troisième mardi du mois à 18h10, le mercredi suivant à 14h10 et le samedi suivant à 16h10.
Ah non, on n'est pas là pour partager les savoirs.
Ah oui, pardon. Non, pouf. Attends, c'est pas comme si on parlait d'éducation populaire.